heures, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1 et je suis ravi en ce beau lundi de Pâques de démarrer une nouvelle semaine à vos côtés jusqu'à 16h et en direct. Je suis avec ma charmante camarade Ombline. Bonjour ma chère, comment allez-vous?
Bonjour Olivier, bonjour à tous, ça va bien, merci.
Pendant cette heure, nous parlons de vous, de vos expériences de vie, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Il y a eu le film Tanguy d'Étienne Châtillaise en 2001, dont beaucoup se souviennent, et vient de sortir au cinéma la suite, Tanguy, le retour. Toujours sur un ton humoristique, mais derrière la satire sociale se cache une réalité nettement moins drôle. Pour des raisons économiques ou à la suite d'un divorce, des adultes se retrouvent contraints de retourner vivre chez leurs parents. Aujourd'hui, cela a un nom, les Boomerang Kids, ceux qui sont nés dans les années 80 et pour qui trouver un travail ou un logement est bien plus compliqué. Sauf qu'à 30 ans ou à 40 ans, difficile de respecter le rythme de ses parents ou d'abandonner toute forme d'indépendance. Et puis, pour les parents eux-mêmes, qui avaient aussi leur propre vie, difficile de voir revenir son enfant devenu adulte dans son quotidien. Alors, comment vivre en bonne harmonie? Comment accepter ce genre de situation? Être adulte et retourner vivre chez ses parents? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et on vous écoute comme chaque jour au standard d'Europe 1. Vous composez le 39-21, 50 centimes la minute. Vous pouvez aussi nous écrire. N'hésitez pas, on vous lira sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Estelle sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Estelle?
Alors, j'ai bientôt 29 ans et j'appelle de Boulogne-sur-Mer dans le Nord.
D'accord. Boulogne-sur-Mer où j'étais hier, vous voyez?
Ah
ouais, j'adore Boulogne-sur-Mer, c'est une très belle, très jolie ville. Suite à la séparation avec votre ex-conjoint Estelle, vous allez être contrainte de vous réinstaller chez vos parents avec votre fille de 3 ans. Pourquoi avoir fait ce choix?
Parce que moi je suis partie il y a 5 ans dans le nord de la France pour suivre mon conjoint.
Oui.
Et donc on n'a ni famille, enfin, on s'est fait des amis après une fois sur place, mais on n'a pas du tout notre famille là-bas.
Mmh.
Et donc maintenant que je suis séparée du papa de ma fille, je me demande un peu ce que je fais encore dans le nord. Donc
oui.
L'idée c'était de revenir près des miens. Et de pouvoir rebondir, que ce soit financièrement ou retrouver du travail, etc., en passant par la case papa-maman.
Bon, on va en parler durant toute cette émission. Il est vrai que le foyer hein, avec les parents, c'est un moment où on peut peut-être se poser justement dans la projection de rebondir. C'était la seule solution pour vous qui vous est apparue tout de suite de retourner chez vos parents?
Non, j'ai d'abord pensé à ce qu'on a acheté une maison dans le Nord, j'ai pensé à racheter la moitié de la part de la maison,
oui.
Puis en réfléchissant, moi ici je suis auto-entrepreneur, donc je suis à mon compte, je ne travaille pas beaucoup pour pouvoir m'occuper de ma fille.
Que faites-vous Estelle?
Je suis blogueuse dans l'univers de la parentalité et mmh. J'anime des ateliers de motricité avec les petits.
D'accord.
Mais bon, le planning ne se remplit pas facilement, donc ça ne me permet pas d'être autonome financièrement, ce n'était pas l'objectif.
Mmh.
On était censé être deux. Hein,
donc oui, oui.
En étant seule, moi, ça fait un an que je suis auto-entrepreneur, il me faut un peu du temps pour pouvoir avoir un
oui,
salaire un
oui,
peu plus
oui.
élevé.
Mmh.
Et dans le Nord, c'est un petit peu bloqué sur ça aussi. Quoi.
Mmh. Et dans le Nord, la situation est en plus assez difficile. Hein. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de difficultés à trouver... du travail, et puis il y a aussi un niveau de vie qui n'est pas énorme pour beaucoup de gens, donc voilà, dépenser de l'argent, ça n'est pas toujours facile pour des auto-entrepreneurs comme vous. Vous habitez donc à Boulogne-sur-Mer, et vos parents sont dans le Var. C'est un gros changement de perspective. Vous appréhendez ce changement?
Après c'est quand même retourner, en fait, au final c'est retourner à mes racines, donc je retourne dans un endroit que je connais beaucoup mieux,
ouais.
Au final, que de partir à l'inverse il y a 5 ans, c'était plus l'inconnu. Là, je retourne dans un endroit que je connais bien quand même,
oui.
mais quitter là où ma fille est née, a commencé à grandir, les amis qu'on s'est fait, oui, c'est pas évident, et traverser la France, quoi, avec ma fille sous le bras.
Mmh. Oui, c'est un retour quand même dont vos parents se réjouissent quand même, parce que vous évoquez une petite fille. On sait que pour des grands-parents, une petite fille, c'est aussi important. Donc, comment appréhendent-ils ce retour, eux?
Oh, ils sont ravis. Ils voulaient ne pas m'influencer, mais eux, ça les rassure énormément de pouvoir m'aider, de voir plus souvent leur petite fille. Mais ça, limite, ils montaient régulièrement. Mais c'est plus de... En étant de l'autre côté de la France, ils avaient du mal à voir comment ils pouvaient m'aider.
Oui.
Et moi, je n'avais pas envie qu'on m'aide financièrement. Et donc là, au final, ils vont pouvoir m'aider plus. Ils vont pouvoir garder ma fille pour que je puisse avoir un emploi un petit peu plus...
stable.
Avec plus d'horaires, ouais. Plus stable, etc. Mmh. Et pour que je puisse habiter chez eux le temps d'avoir un contrat, de pouvoir payer un loyer.
Est-ce que dans cette décision, vous avez peur de... perdre une partie de votre indépendance, de ne plus vous sentir chez vous et de devoir faire quelques concessions. Parce que, comme je l'évoquais au début de cette émission, on rentre à nouveau dans la vie de ses parents qui ont pris un rythme. Et voilà, votre arrivée avec votre petite fille va obligatoirement bousculer ce rythme. Est-ce que vous appréhendez cela ?
Oui, ben, il y a déjà le fait, en partant de la maison où je suis actuellement, je pars d'une grande maison, j'arrive dans un petit studio, parce que je vais pas avoir ma chambre d'enfant, ce qui est déjà quand même un gros avantage.
Oui.
Je vais être dans un studio collé à la maison de mes parents, donc j'aurai une petite indépendance quand même.
Mmh.
Mais moi, c'est plus la perte de qualité de vie, au sens où je pars d'une maison, j'arrive dans un petit logement. C'est plus ça ma crainte, en fait. Mmh. Après,
bon.
L'entente avec mes parents, etc., ça, il n'y a pas trop de soucis. Je sais qu'ils vont me laisser quand même faire ma vie, mais je n'aurai plus mon chez-moi et mon grand chez-moi.
Bon, vous avez 29 ans, Estelle, et j'ai envie de vous dire que vous avez la vie devant vous, et puis vous avez de l'ambition, puisque vous aviez quand même l'ambition de devenir auto-entrepreneur. Donc, c'est aussi un projet que vous pouvez réaliser là-bas dans le Sud. Et puis, voilà, blogueuse, voilà, ça se déplace, que vous arriviez dans le Sud. Maintenant, ça n'est pas vraiment un problème. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et merci mille fois de nous avoir raconté votre histoire et puis embrasser votre fille pour nous. Dans quelques instants, nous accueillerons Amandine. Elle a essayé de quitter le nid familial, mais financièrement et à cause de soucis de santé, elle n'a plus jamais quitté ses parents, et même avec un mari et des enfants qui sont arrivés depuis.
Et le témoignage de Marguerite au 39-21. Marguerite a 32 ans. Revenir chez mes parents m'a aidé à mieux les connaître. Je les ai vus avec mes yeux d'adulte. J'aurais préféré redécouvrir mes parents dans d'autres conditions, mais les grandes difficultés personnelles que j'ai rencontrées auront au moins servi à ça.
Europe 1.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage d'Estelle qu'on vient d'entendre, celui de Marguerite. Venez-vous aussi nous raconter votre histoire au 39-21. Après avoir vécu indépendamment pendant un certain temps, vous avez été obligé de vous réinstaller chez vos parents. On vous lit aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Quand le coup de la vie, une séparation, un licenciement vous oblige à faire machine arrière, adulte, ce sont vos parents qui vous hébergent de 39-21 pour nous appeler, pour nous raconter comment ça se passe et que disent vos parents justement. Vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Alors, en attendant de pouvoir joindre Amandine, nous allons accueillir André, qui, elle, a accueilli sa fille, son mari et ses deux enfants pendant 2 ans sous son toit. Bonjour André.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ah, très très bien. très bien, avec le beau temps.
Ouais. Quel âge avez-vous et d'où vous nous appelez, André ?
Alors, 67 ans et j'appelle de l'Ardèche, de Privas.
D'accord.
Privas en Ardèche.
D'accord. Vos enfants qui reviennent à la maison, vous l'avez vécu. Hein. Votre fils est revenu plusieurs fois et pendant 2 ans, cela a été votre fille qui est revenue. Elle avait 35 ans. Comment ça s'est présenté lorsqu'elle est revenue ?
Eh bien, disons que les enfants envisageaient de faire un achat de maison.
Oui.
Et ils n'avaient pas la possibilité de payer un loyer en attendant de faire des travaux. Donc, ils nous ont demandé de venir loger à la maison, ce que nous avons accepté très facilement.
D'accord. Et vous avez accepté tout de suite cette décision ?
Ah oui, tout de suite. Mmh. Oui, il n'y a pas de souci avec les enfants. Comme on avait fait avec son frère, on a fait avec eux.
D'accord. Vous n'aviez pas peur de chambouler toutes vos habitudes, de devoir vous faire au brouiller, à l'agitation, parce que ça chamboule un peu la maison, tout ça ?
Oui, mais non, pas de souci, parce qu'on se connaît bien avec donc notre fille, on s'entend très bien, que notre gendre de même.
Mmh.
Les enfants, bon, ben, les petits-enfants, bien sûr, venaient très souvent chez nous, enfin dans notre appartement. Et puis les parents ont demandé à ce qu'ils ne montrent qu'avec leur permission. Donc après, ils ont cadré les enfants en disant, vous nous demandez avant d'aller chez papy et mamie, ils sont tous les deux tranquilles. Donc ça a été très très vite cadré.
Ouais.
Chacun était chez soi, on se respectait bien, tout en s'offrant le café régulièrement.
Vous pensez que c'est nécessaire d'imposer ces règles dès le début ?
Oui.
Oui.
Oui, il faut quand même, il faut une règle de vie qui continue encore à l'heure actuelle parce que les enfants habitent à côté de chez nous. Mmh. Donc les règles ont été partagées dès le départ pour que chacun reste bien chez soi et respecte la vie de l'autre.
Vous dites que vous n'avez pas vu passer les 2 ans de cohabitation, que finalement avec ces règles, tout le monde était discret et chacun avait sa vie.
Voilà, chacun avait sa vie et on était toujours heureux de se voir, de se dire un bonjour. Voilà, chacun menait sa vie comme il entendait.
Chacun y mettait du sien, donc visiblement, pour voilà, que ça se passe bien au quotidien.
Voilà, c'est ce qu'il faut, que chacun des deux ménages respecte l'autre.
Oui.
Et voilà, chacun recevait qui voulait, comme il voulait, sans être obligé d'inviter l'autre couple à manger parce que c'était des connaissances et tout. Il faut que chacun garde sa vie privée.
Mmh. Mais alors justement, qu'est-ce que ça a changé, l'arrivée de votre fille, plus votre fils, plus les enfants, au-delà des règles que vous avez respectées les uns et les autres, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a ramené finalement de la joie, du bonheur supplémentaire dans cette maison?
Ah ben c'est que du bonheur d'avoir ses enfants à côté, même si on les voit pas régulièrement parce qu'ils mènent leur vie, et d'avoir les petits enfants, mais ça peut être que du bonheur. Hein. Ça, moi, je remercie, comme on dit, le bon Dieu tous les jours, de pouvoir avoir mes enfants et mes petits enfants régulièrement.
Alors vous parliez de règles, André, et au niveau de la participation, est-ce que de vos enfants, de votre fille, de son mari, de votre gendre, est-ce qu'ils participaient au-delà des tâches ménagères, au financement des courses, ou est-ce que vraiment ça faisait un foyer unique?
Non. Disons qu'au début, on ne leur a rien demandé. C'était vraiment de l'accueil de nos enfants, sans rien en échange. Et c'est eux qui ont décidé à un moment donné d'avoir une petite participation. Donc, on leur a dit, si vous voulez participer un petit peu aux frais de la maison, c'est-à-dire de l'eau et du chauffage. Donc, ça a été un minimum. Je dis qu'ils participent un peu, mais sinon, on ne leur demandait rien. Non, parce que ce sont nos enfants.
Mmh. Que pensez-vous, justement, du fait que certains parents vivent mal le retour de leurs enfants? Parce que, bien évidemment, on fait des enfants, on les a pour la vie, mais ils ne sont pas notre propriété. Certains parents vivent mal le retour de leurs enfants. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ou qu'en pensez-vous, André?
Je pense que chaque caractère est différent, suivant les parents, suivant l'échange qu'on a avec ses enfants. Nous, on est très proches avec les enfants. On est souvent là pour les aider, disons pour les petits-enfants, pour s'ils ont besoin, on est toujours prêt à les aider, suivant nos possibilités. Et les enfants nous le retournent bien par leur affection, par leur aide si on a besoin. On est une famille assez unie, très unie, donc autant avec les gendres que la belle-fille. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui n'acceptent pas, c'est parce qu'ils sont peut-être plus personnels, ils ont un caractère peut-être plus personnel, ils préfèrent leur vie à eux, ils ne supportent peut-être mal le bruit, mal les petits-enfants, ou mal le gendre ou la belle-fille, je ne sais pas.
Votre mari vivait aussi bien que vous ce changement?
Peut-être pas pour tout, parce que mon mari est assez bricoleur, et si vous voulez la dépendance ou habiter les enfants, il était à côté.
Oui.
Et ça l'empêchait des fois de faire son bricolage, parce que il dormait, il se reposait, vous avez du monde. Mmh. Ça, peut-être, il a un petit peu moins bien vécu, mais dans l'ensemble, si, ça s'est très bien passé.
Bon, alors, depuis, votre fille est repartie. Est-ce que ce départ a causé un grand vide, quand même, en vous?
Ah, écoutez, elle habite à côté, on est mitoyens.
Ah, ça va.
Donc, elle n'est pas partie de loin. Mais dans la maison elle-même, on a été un peu perturbés. Parce que, bien sûr, quand on a des personnes qui habitent en dessous chez nous, on fait attention au bruit ou on entend des bruits qui deviennent réguliers, habituels.
Ouais.
Et on a été un peu perdus. On était un peu perdus au départ. Mm-hmm. Mais ça a très vite passé. De même que les petits-enfants, au début, venaient très souvent parce que, pour eux, c'était encore leur maison.
Oui.
Donc, il fallait qu'ils s'habituent à une autre. Et maintenant, ça y est, ils ont pris leur repère, ils sont chez eux, ils sont... Voilà.
Donc,
et c'est toujours pareil, ils ne viennent qu'avec l'autorisation des parents.
D'accord, donc on peut dire que vos relations aujourd'hui sont au beau fixe.
Oui, voyons, aujourd'hui on fait un repas de famille chez eux.
D'accord, bon repas de famille, embrassez tout le monde pour nous. Merci beaucoup pour votre appel et pour votre témoignage en plein repas de famille, André. Donc merci d'avoir pris de votre temps pour nous livrer votre histoire sur Europe 1. Et puis bon lundi de Pâques à vous. Dans quelques instants, nous accueillerons Delphine. Ses parents ont toujours respecté ses passions et pour mener à bien ses projets, elle a vécu chez eux pendant 1 an. Mais avant cela, nous aurons Michel Billier. Il est sociologue et a écrit l'ouvrage « Lien conjugal ». conjugal et vieillissement aux éditions RS.
Et il y a Jeanne qui a 39 ans et qui témoigne cet après-midi au 39-21. Elle nous raconte « Après mon divorce difficile, ma mère m'a accueillie à bras ouverts. On a eu très vite nos petits rituels. Elle s'est montrée investie, sans empiéter sur ma vie, mon indépendance. Elle m'a boostée pour me remettre en selle, m'a donné l'énergie nécessaire pour recommencer. On s'est beaucoup rapprochés l'une de l'autre. » Et finalement, ça a presque été un déchirement quand j'ai pu à nouveau m'installer dans mon propre appartement.
Europe 1.
On parle de ces adultes qui reviennent habiter chez leurs parents alors qu'ils avaient quitté le nid il y a de nombreuses années. Qu'est-ce que ça vous est arrivé, pardon? Venez témoigner au 39-21. On vous lit également sur Twitter, hashtag Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de cette génération boomerang adulte. Et après un coup dur, vous avez été contraint de revenir au domicile familial en emmenant avec vous vos propres enfants peut-être. Venez nous raconter votre histoire au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Michel Billier. Bonjour monsieur, vous êtes sociologue et vous êtes auteur de l'ouvrage « Lien conjugal et vieillissement » aux éditions RS.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, plus de 4 millions de jeunes adultes se retrouvent contraints de vivre chez leurs parents, comme l'a révélé une étude de l'INSEE. C'est un phénomène grandissant.
Oui, certainement un phénomène grandissant. Qui est apparu de manière à peu près sensible dans notre pays à partir de la crise économique de 2008, crise économique, et immédiatement, évidemment, apparaît une des causes de ce phénomène, les difficultés financières dans lesquelles se trouvent, de façon provisoire mais significative, dans lesquelles se trouvent un certain nombre de nos contemporains, justement à ce moment précis de leur vie où on pouvait les croire partis définitivement.
Quelles sont les principales raisons qui poussent ces personnes à retourner chez leurs parents? On a parlé de séparation, on a parlé de causes économiques. Vous avez pu constater, vous, que c'était plus d'ordre économique ou les divorces, les séparations sont aussi importantes dans ce retour chez les parents?
Je dirais deux raisons qui se conjuguent pour en produire une troisième. Première raison, elle est économique par exemple, c'est-à-dire précarité de l'emploi, perte de l'emploi,
oui.
Chômage, diminution drastique des revenus, grosses difficultés financières, première raison. Deuxième raison, parce que s'il n'y avait que la première, après tout, souvent, on tiendrait le coup. Deuxième raison, qui se conjugue avec la première, eh bien, elle est de l'ordre de la vie de couple, rupture, séparation, en tout cas, difficulté dans la vie de couple. Et puis, une raison se conjuguant à l'autre, une troisième apparaît, que l'on pourrait appeler perte de l'estime de soi.
Oui.
C'est-à-dire, cette personne, elle a un homme, une femme, elle a 30-35 ans, se retrouve seule, alors que ce n'était pas ça l'idée, le projet, se retrouve sans emploi, ce n'était pas ça l'idée, le projet, et du coup, quelle image à ses propres yeux, quelle image cette personne peut-elle avoir d'elle-même?
Oui, oui, oui.
Eh bien, cette perte de l'estime de soi fait que, si je me permettais d'emprunter à Alain Souchon une jolie petite formule d'il y a déjà quelques années, « Allô maman, bobo ?»
Oui,
évidemment, mais... « J'arrive parce que rien ne va plus. »
Ce sentiment d'échec, de retour en arrière, vous pensez qu'il est vraiment difficile à accepter aussi parce que le regard de la société sur ces adultes qui retournent vivre chez leurs parents est un regard qui s'accompagne d'un jugement?
Bien sûr, c'est Prévert qui nous disait « c'est dans le regard de l'autre que parfois on se reconnaît dans le regard de l'autre
oui. ».
Évidemment, s'il n'y avait pas sur ces adultes-là un regard sévère, eh ben, on n'en parlerait même pas.
Mm-hmm.
Étienne Chatillier n'aurait même pas eu l'idée de faire un film. Mais évidemment, c'est parce que le regard est sévère que la situation est difficile à vivre.
Mm-hmm. Oui. Alors, on parle de ces adultes, bien sûr, qui reviennent chez leurs parents. Mais justement, il y a aussi ces parents au milieu de tout ça. Pour eux, c'est aussi un changement de vie majeur. Comment ne pas se sentir obligé d'accueillir ces enfants? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est ce que vous avez constaté chez ces parents qui accueillent à nouveau leurs enfants?
Alors, c'est à la fois du plaisir et de la contrainte. Et c'est certainement toute la difficulté, tout le piège potentiel de la situation, c'est que personne n'imagine laisser son fils, sa fille en grande difficulté sans l'accueillir, évidemment.
Oui, oui.
Maman, j'arrive. Papa, j'arrive. Bah, évidemment, tu viens, mon chéri. C'est évident, bien sûr. Mais donc, personne ne peut imaginer laisser son fils ou sa fille en difficulté, quel que soit son âge et quelle que soit la situation. Mais évidemment, cette difficulté, elle surgit dans la vie du couple parental, dans la vie du couple qui va avoir à accueillir, couple ou pas couple d'ailleurs. Attention, parce que c'est pas toujours un couple vers lequel reviennent les enfants. Ça peut être une maman qui elle-même est divorcée et qui vit seule, ou qui est veuve, ou qui, etc. Ça peut être vers un parent seul, bien sûr. Mais évidemment, comment ne pas vivre cela en même temps comme un devoir, une obligation et parfois une contrainte, notamment lorsque les conditions économique, financière, du couple, de la génération qui accueille, lorsque cette situation économique, financière, situation d'habitat, ne sont pas extraordinaires.
Oui.
Parce que quand il y a de l'argent, et pas tant, on partage, quand l'espace habitable est très grand, formidable, il y a de la place pour tout le monde. Mais quand il s'agit d'accueillir son fils, sa fille, éventuellement accompagné d'un ou deux enfants, petits-enfants, si la place habitable, si l'espace habitable est restreint, c'est difficile quand la cuisine est trop petite. Comment fait-on pour prendre le petit-déjeuner le matin? Quand la salle de séjour, quand l'appartement est tel qu'il faudra que l'enfant qui rentre là, qui revient, dorme dans la salle de séjour. Mais ça veut dire un quotidien complètement bousculé qu'il va falloir réinventer. Et réinventé pour une durée a priori
indéterminée.
Inconnue.
Oui, je pense à ce changement de vie majeur que doivent vivre ces familles. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'avoir filmé une femme, justement, dans le Nord, qui avait été contrainte de retourner chez ses parents retraités, avec un seul salaire de retraité de son père. Et ils étaient à 7 à un moment sur ce salaire. Donc, il y a obligatoirement des règles à poser d'entrée de jeu. Est-ce que vous constatez, vous aussi, Michel Billier, que ces règles sont incontournables pour que les choses se passent bien?
Mais bien sûr. Alors, vous insistez, et je l'apprécie beaucoup, sur les conditions financières dans certaines situations, en tout cas.
Oui.
Je me permets d'insister à nouveau là-dessus. Aujourd'hui, en France, une femme retraitée sur deux vivant seul est au seuil de pauvreté.
Oui.
950 euros. Quelle richesse incroyable! Quand il va falloir partager ça avec un fils ou une fille qui revient et qui elle se trouve lui-même, elle-même, en grande difficulté financière. Donc, il se peut d'ailleurs qu'il y ait à ce moment-là une sorte de mutualisation, de partage des moyens financiers. Le peu d'argent qu'a la maman et le peu d'argent qu'a sa fille ou son fils, on va mettre tout ça ensemble et, allez, à la limite, on s'en sortira pas trop mal. Mais attention, ce n'est quand même pas une partie de plaisir.
Ça n'est pas une partie de plaisir comme on peut le voir dans le film, le premier film et la suite du Tanguy d'Étienne Châtillaise. Malheureusement, ce retour est souvent compliqué, comme vous l'avez souligné, Michel Billier, ne serait-ce que par le regard que la société porte sur ces adultes qui se retrouvent à nouveau chez leurs parents, et puis aussi économiquement, où toute une famille élargie d'un seul coup doit composer avec un tout petit budget. Vous restez en ligne avec nous, Michel Billier. Dans quelques instants, nous accueillerons Delphine. Ses parents ont toujours respecté ses passions et pour mener à bien ses projets, elle a vécu chez eux pendant un an et on verra que ça n'a pas toujours été simple.
Europe 1.
Après un premier envol, vous n'avez pas eu d'autre choix que de retourner vivre dans le nid familial chez vos parents. Comment se passe la cohabitation? Vous nous racontez votre expérience au 39-21. Ces adultes qui retournent chez leurs parents après une rupture, un licenciement, ce retour au bercail peut s'avérer difficile pour d'autres. C'est une libération. Qu'en est-il pour vous? Vous nous racontez, Olivier Delacroix, vous écoute au 39-21.
Ce sont en tout cas des vies bousculées, que le retour de ces enfants chez leurs parents. Alors on l'a vu avec André, ça peut très bien se passer et puis parfois moins bien. Nous en parlerons maintenant avec Delphine. Bonjour Delphine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Delphine?
J'ai 28 ans et là je vous appelle, je suis pas loin de Agen.
D'accord. Alors vous étiez parisienne depuis 8 ans, où vous habitiez seule. Et puis en juillet dernier, vous avez été contrainte de retourner vivre chez vos parents en Picardie. Pourquoi cela?
Bah parce que j'avais un nouveau projet de vie, c'était de me lancer en freelance.
Oui.
Et donc j'ai quitté mon ancien boulot un peu précipitamment parce que ça s'est pas bien passé à la fin. Et puis du coup j'étais pas vraiment prête pour mon projet à ce moment-là. Et donc vivre avec juste le chômage sur Paris, c'est pas possible en fait.
Oui.
Donc il y a un moment le choix il s'est fait un peu naturellement.
C'est imposé à vous, ouais.
Mmh. Ouais, c'est ça, parce que j'avais pas le choix et voilà, et mes parents m'ont toujours dit qu'ils étaient là pour moi, donc ils ont été très gentils de me réaccueillir.
On parlait justement, on évoquait cela avec Michel Billier, sociologue, on évoquait ce regard de la société qui est souvent sévère lorsqu'on retourne chez ses parents. Est-ce que vous avez ressenti ce sentiment d'échec, ce jugement, une sorte de retour en arrière?
Vraiment être intermédiaire, je pensais pas rester presque un an, donc c'était temporaire. Après moi j'ai eu de la chance, c'est que dans mon entourage tout le monde a compris.
Oui.
Par contre c'est vrai que quand on parle à des gens qu'on connaît pas, dire qu'on est au chômage et qu'on est de retour chez ses parents, moi ça me mettait pas très à l'aise.
Est-ce qu'on le dit?
Non, maintenant, déjà rien que le fait d'être au chômage, ça peut des fois ça peut avoir un regard un peu gênant.
Bien sûr.
Mais sinon, non, ça a été dans l'ensemble quand même.
D'accord. À quoi vous avez dû vous réhabituer avec vos parents qui, je suppose, avaient pris leur rythme? Est-ce que vous aviez l'impression parfois, par exemple, d'être infantilisé? Parce que quand on quitte 8 ans la maison et qu'on revient, les parents, souvent, vous regardent toujours comme leur petite fille ou je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs ou si vous êtes enfant unique. Mais est-ce que vous aviez cette impression qu'ils vous traitaient encore comme une enfant?
Déjà, le plus dur, c'était de se réadapter à des règles, surtout que moi, je travaillais le soir, donc j'étais en rythme décalé. Donc ça a été dur de se réhabituer à ça. Et puis après, ça a été dans l'ensemble. Maintenant, c'est plus avec mon père que j'ai senti ça. Mais en même temps, avec ma mère, c'était simple parce que la discussion était plus facile. D'une mère à une fille, c'est plus facile que d'une fille à son père. Donc voilà, et après, moi, j'étais pas forcément dans un bon état d'esprit non plus, parce que vu que mon projet ne marchait pas, évidemment, ça me mettait pas dans un bon état d'esprit. Et donc, une fois que j'ai réussi à passer ce cap-là, ça s'est mieux passé.
Et comment avez-vous réussi à trouver vos marques? Comment vos parents également ont réussi à trouver, à retrouver leur repère avec vous dans la maison?
C'est une bonne question. Moi, déjà, il y a le fait de suivre leurs règles. Enfin, c'est pas des règles, c'est plutôt un mode de vie. Donc, manger à telle heure, voilà.
Ça a été dur, ça,
pour vous? Moi, je travaillais du soir. Donc, ouais, ça a été un petit peu dur de me retrouver avec un rythme qui n'était plus le mien depuis 4 ans. Donc, ça a été un petit peu dur. Et puis, après, moi, je suis dans une démarche un peu plus écolo. Donc, il y avait un décalage aussi de ce côté-là.
Oui.
Donc, il a fallu que j'apprenne un peu à lâcher du lest, quoi, comme on dit.
Mmh. Vous n'avez pas essayé de les éduquer un peu là-dessus?
Je les ai sensibilisés, si.
D'accord.
Si. Mais ouais. J'en voulais toujours plus. Mais voilà, il y a un moment, il y a une amie qui m'a remis un peu en place en disant « Mais est-ce que tu as remercié ta mère que tu as remercié tes parents du fait qu'ils font quand même un effort ?» Et ça m'a fait un petit électrochoc, je me suis dit que c'est vrai, non. Là, j'ai changé un peu mon discours, quoi.
Vous dites que vous avez dû faire face aussi au conflit entre vos parents. Comment est-ce que vous avez vécu de vous retrouver tout à coup dans leur vie et donc d'être visiblement témoin de conflits entre eux?
Oui, ça a été la partie la plus compliquée, en fait. Ouais. Vraiment, ça a été la partie très dure. Ça n'allait pas très fort entre mes parents à ce moment-là.
Quel âge ont vos parents, d'ailleurs?
Ils ont ma mère a 52 et mon père, j'en ai 58.
D'accord, ok. Donc, vous disiez que ça n'a pas été facile, ils ne s'entendaient pas?
Oui, non, ça a été dur. Donc, c'est vrai que quand on vit à l'extérieur, on le voit deux jours par-ci, par-là, donc oui. On ne s'en rend pas vraiment compte, même si on est au courant, mais le revivre au quotidien, moi, je savais que, par exemple, il y a des matins, je me levais, je savais très bien que ça allait cacher dans la journée, et du coup, il y a un stress qui est constamment là.
Oui.
Et puis après, il y avait moi aussi qui voulais absolument contrôler les choses pour faire en sorte que ça aille mieux entre eux, en fait.
Vous retrouviez actrice de ce conflit, en fait.
Oui, et moi, je voulais vraiment changer les choses et j'essayais de mettre plein des choses en œuvre pour que ça aille mieux entre eux. Mais c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois dit « c'est pas ton rôle
ouais. ».
Et c'est vrai que c'est pas mon rôle. Mmh. Et donc, ça a été bête, mais ça a été source de conflit parce que moi, je voulais intervenir et les aider.
Ouais.
Et j'ai pas à le faire. C'est pas que j'ai pas à le faire, mais c'est que je peux pas arranger les choses. Et puis, à partir du moment où j'ai... pareil, j'ai arrêté d'essayer de contrôler. Et ben, la situation s'est arrangée, en fait.
Alors, mi-mars, vous avez pris la route avec votre van pour faire un tour du monde. Mais je crois que de quitter à nouveau vos parents a été plus difficile que vous ne le prévoyez, au final. Racontez-moi pourquoi.
Oui, bah parce que du coup, je suis retournée chez mes parents. Donc, j'avais plus d'indépendance. Et oui. Puis, bah, clairement, ma vie sociale, elle en a pris un coup parce que moi, tous mes amis étaient partis. Ça faisait 9 ans que j'avais quitté la région, donc je ne connaissais plus personne. Mmh. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvée entre quatre murs avec mes parents. Et je vivais à leur rythme. Et puis, quand j'ai dû partir, ça a été dur de retrouver, de me dire bah, je repars dans l'indépendance. Et puis, en plus, je repars en van. Donc, ce n'est pas un confort de vie qui est similaire.
Mmh.
Donc, il y avait la peur. Et puis... bah ouais, je voulais pas lâcher le confort parental, quoi. Puis comme ça allait mieux entre nous, c'était aussi beaucoup plus compliqué de quitter.
Et comment ça se passe maintenant, où vous en êtes aujourd'hui après avoir pris ce temps chez vos parents, le temps de sans doute respirer, souffler et peut-être vous projeter dans l'avenir? Où en êtes-vous aujourd'hui?
Ben, j'ai eu beaucoup de mal à mettre mon projet en place.
Oui.
Il est toujours pas, encore abouti. Maintenant, il se concrétise petit à petit, mais la vie en van, c'est la solitude qui est le plus dur à gérer, parce qu'évidemment tous les soirs, on se racontait nos journées, on passait du temps. Alors même si c'était juste regarder un film, c'est quand même un moment qu'on partageait ensemble. Les week-ends, on prenait l'apéro, donc enfin, et là, il n'y a plus tout ça, donc ça, c'est un peu compliqué. Donc, bah, je les appelle au moins une fois par semaine, quoi.
Bon, en tout cas, vous avez tout de même la vie devant vous, hein, et l'avenir, la vie est belle. Dites-vous ça, quoi. Il faut chaque matin essayer, et puis en van, c'est quand même le rêve. Vous pouvez vous déplacer, aller où vous voulez, et positiver, et c'est la liberté. Merci, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous faire partager votre quotidien et votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Clément, qui, lui aussi, a été obligé de revenir chez ses parents pour des raisons de divorce. Et on va parler du quotidien, de ce quotidien bousculé de ses parents, mais aussi de l'intimité de tout le monde.
Et parfois, la cohabitation ne se passe pas forcément très très bien. Il y a Guillemette qui a 79 ans et qui témoigne cet après-midi au 39-21. J'ai accueilli ma fille avec ses deux enfants à cause d'une séparation. C'était l'enfer. Elle découchait souvent, ne s'occupait pas des enfants, ne donnait rien pour vivre. Depuis cet épisode, on ne se parle presque plus.
Europe 1.
Vous avez rencontré des difficultés et vous avez dû retourner vivre chez vos parents. Venez nous raconter votre histoire. Par quoi êtes-vous passé au 39-21? Vous nous écrivez aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Après un divorce, la perte d'un emploi, vous avez dû retourner chez vos parents, le temps de vous reconstruire. Comment arrivez-vous à vivre en harmonie? Vous avez dû accueillir vos enfants adultes, 39-21, pour nous appeler et pour nous raconter. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous allons justement en parler avec Clément, que nous accueillons cet après-midi sur l'antenne d'Europe. Bonjour Clément.
Et bonjour à tous.
Bonjour, quel âge avez-vous Clément?
J'ai 39 ans.
Et vous nous appelez? De...
Là, je vous appelle de Clermont, où je suis pour le travail, mais je suis lyonnais, sinon.
D'accord. Alors, voilà. Clément, à quel âge êtes-vous retourné chez vos parents et pour quelles raisons, d'abord ?
Eh bien, à 37 ans, voilà, puisque j'étais en train de divorcer, bon, comme beaucoup de divorces, un petit peu compliqués, au moins sur la partie matérielle,
oui.
Et je devais me séparer de la maison qu'on avait en commun, voilà, où j'ai habité quelques temps seul, et ne pouvant la garder, et dû à mon métier aussi, c'était très compliqué de retrouver un logement, que ce soit en location ou à l'achat, parce que je suis comédien, donc intermittent du spectacle,
oui.
Ça ne fait pas la joie des banquiers, voilà.
Oui, c'est très donc... compliqué, hein. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est très compliqué pour toutes les personnes qui ont des situations comme la vôtre, hein, en tout cas des statuts, et notamment les intermittents du spectacle qui, lorsqu'ils se séparent, doivent racheter la moitié de la maison ou repartir, mais il est très difficile pour eux d'obtenir des prêts.
Et oui, tout à fait, parce que c'est vu comme une profession à risque, même si ça ne l'est pas nécessairement, voilà, c'est un métier comme un autre. Mais du coup, les banquiers ne le voient pas de cet œil-là. Et voilà, et du coup, mes parents m'avaient proposé de venir à la maison le temps de trouver une solution. Moi, j'avais du mal à envisager justement cette solution-là. Je voyais ça un petit peu comme une régression, comme un échec, de se dire, à bientôt 40 ans, je retourne chez papa-maman. Voilà, ça fait vraiment, oui, aveu d'échec, on va dire.
C'est quelque chose oui. auquel vous aviez pensé. Au moment où les ennuis commencent avec votre compagne et que vous envisagez la séparation, est-ce que lorsque vous y pensiez, c'était quelque chose qui vous mettait la pression, vous angoissait ?
Oui, oui, oui. Alors nous, ça s'est fait très, très rapidement, la séparation, donc j'ai pas eu le temps de trop y cogiter.
Ouais.
Mais par contre, oui, mais illico, mes parents ont proposé, ne pouvant m'aider financièrement, ils proposaient au moins matériellement de m'accueillir.
Mmh.
Après, moi, je voyais vraiment comme le dernier recours possible, ça. Et puis finalement, comme les choses se sont accélérées pour la vente, je me suis résigné, j'ai accepté la proposition en me disant que ce serait temporaire. Et cas particulier, je me suis réinstallé du coup chez mes parents et mon père est décédé juste après, en fait.
Oui, alors oui, vous êtes retrouvé
un petit peu célibataire chacun de notre côté, ma mère veuve, moi divorcée.
Oui.
Et finalement, on a construit ça ensemble, ça nous a permis, je pense, d'affronter un petit peu notre propre situation à chacun, la séparation, le deuil, on a pu se soutenir.
Mm-hmm.
Et puis finalement, on a trouvé un petit peu, je pense, notre compte au fur et à mesure, chacun de notre côté, que ce soit financièrement, matériellement.
Oui.
On est là l'un pour l'autre, on s'entraide. Et j'avoue que la colocation, parce que c'est vraiment ça, la colocation s'est passée beaucoup mieux que je ne l'imaginais.
Oui.
Et la preuve, c'est que 2 ans plus tard, j'y suis encore.
Vous y êtes encore. Pas de règles finalement, puisque... malheureusement, le décès de votre papa vous a uni dans le deuil, ce qui a sans doute scellé encore plus votre relation avec votre mère. Mais qu'en est-il de votre intimité ? Parce que je crois savoir que vous avez depuis rencontré à nouveau une jeune femme. Est-ce que ça pose un problème lorsque vous devez inviter cette jeune femme chez vous ?
Eh ben, pas particulièrement. Alors, j'ai la chance, on a la chance du coup d'avoir une grande maison qu'avait construite mon père et on a quasiment un étage chacun. Donc, il n'y a pas de souci. Si on veut ne pas se croiser, on peut ne pas se croiser. Après, voilà, on vit en cohabitation quand même. On se voit, on mange ensemble, on partage des moments.
Mm-hmm.
Et j'ai eu la grande chance aussi que le courant passe très bien entre ma mère et ma compagne. Voilà, elle vient souvent. Moi, j'habite un petit peu chez les deux, du coup, en partageant mon temps comme ça. Et elles s'entendent très bien. Voilà, comme c'est à la campagne, ça permet aussi finalement d'avoir presque une maison de campagne pour ma compagne.
Mm-hmm.
Donc, ça, au contraire, ça se passe très bien. Comme quoi, il y a du positif. Et je voulais juste ajouter un élément.
Allez-y.
C'est que ça permet vraiment, un de vos auditeurs l'évoquait tout à l'heure, mais de redécouvrir aussi... ses parents. Et moi, ma mère, je l'ai redécouverte, puisqu'on n'est plus vraiment sur une maman, c'est toujours une maman, mais c'est aussi une personne qui vieillit, c'est une mamie, et on découvre la personne, comment elle a changé. Et moi, au final, je prends ça plus presque comme un privilège et une chance de pouvoir partager ces années-là avec elle qu'une vraie contrainte.
En tout cas, on entend combien vous considérez ça comme une sorte d'enrichissement dans votre relation aujourd'hui d'adulte à votre mère. Je me retourne vers vous, Michel Billier. On entend Clément, pour qui tout ça se passe bien. On évoquait l'intimité. Bon, là, on a le cas d'une grande maison, visiblement avec un espace donc qui peut permet à la compagne de Clément de venir et de se sentir bien. Est-ce que vous avez constaté que c'était une difficulté aussi pour ces enfants qui reviennent chez leurs parents de ne pas pouvoir faire venir leur conjoint ou enfin leur nouvelle compagne ou compagnon et de ne plus avoir une intimité possible ?
Alors, intimité de couple ou intimité de relation sociale, tout simplement, recevoir des amis, accueillir... Imaginez pouvoir dire, parce qu'on a rencontré quelqu'un en se baladant en ville, pouvoir dire, bah, tiens, passe donc prendre l'apéro chez mes parents, chez ma mère, chez... Ça devient très compliqué, parce que ça vient bousculer ce que je vais appeler les rituels de vie. On a, depuis le début d'émission, on a parlé plusieurs fois, on a évoqué plusieurs fois la difficulté qu'il peut y avoir à établir des règles.
Oui,
des règles, elles sont nécessaires, mais je voudrais qu'on regarde comment ces règles viennent en quelque sorte permettre de vivre des rituels qui viennent scander nos vies. Des choses très simples. Le matin, est-ce que vous préférez prendre votre douche avant le petit déjeuner ou après le petit déjeuner ? Et du coup, les rituels des uns et des autres, comment vont-ils être compatibles pour l'occupation de la salle de bain, l'occupation de la cuisine, le fait que le café soit à bonne température au bon moment, etc. etc. Alors, je prends l'exemple du petit déjeuner, mais à chaque étape de la vie quotidienne, de la journée, évidemment, les rituels vont devoir se succéder pour scander, organiser et donner du sens à la vie collective. Alors, l'intimité d'une personne de 30 ans, 40 ans, l'intimité vient se greffer sur les rituels de vie collective. Rien n'est simple là-dessus. Alors, on voit Clément qui, j'allais dire, a la chance de rencontrer une nouvelle compagne avec qui tout se passe bien. Elle doit avoir, cette compagne, une certaine souplesse dans sa manière d'entrer en relation avec autrui, etc. Formidable. Mais on imagine derrière cette belle aventure de Clément et de sa compagne et de sa maman, on imagine toutes les difficultés qu'il peut y avoir.
En tout cas, cet exemple du petit déjeuner est très parlant, Michel Billier, parce qu'on voit combien l'intimité n'est pas liée simplement à une relation amoureuse, mais que cette intimité, elle peut concerner justement le petit déjeuner, la douche avant, après. Merci pour cet exemple très parlant. Vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous allons accueillir Christophe, qui lui aussi a dû, après une séparation amoureuse, revenir pendant un an chez ses parents.
Europe 1.
Après un coup dur, vous êtes retourné vivre chez vos parents, et pour certains entre vous, avec vos propres enfants, qu'avez-vous ressenti ? On vous écoute sur Europe 1 39-21.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Garder des vieux balais d'essuie-glace sur un pare-brise neuf ? C'est pas sérieux ! En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace avant Bosch sont gratuits. Vous imaginez ? Gratuit ! Une promo comme ça, faut pas la rater ! Alors profitez-en, c'est jusqu'au 27 avril.
Carglass répare, Carglass remplace.
Voir conditions sur carglass.fr.
Vous avez retrouvé votre chambre d'ado plusieurs années, pourtant, parfois, après avoir quitté le cocon familial. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dû retourner vivre chez vos parents une fois adultes et parfois avec votre propre famille sous le bras? 39-21 pour nous raconter. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Merci de choisir Europe 1. Excellent après-midi ce lundi. Vous êtes retourné vivre chez vos parents une fois adultes. Vous échangez avec Olivier Delacroix.
Et nous recevons maintenant Christophe sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 32 ans, je vous appelle de Marseille.
Alors, je ne sais pas si la radio est un petit peu allumée, il y a un petit écho. Peut-être vous pouvez baisser le son un petit peu. Christophe, vous êtes retourné chez vos parents après une séparation amoureuse. Alors, d'abord, était-ce la seule solution qui s'offrait à vous ?
C'est dans cette situation et dans cet environnement-là, oui, ce qui m'a semblé le plus sain. Parce que, de prime abord, je vous écoute depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a un truc qu'il faut souligner, c'est qu'il faut bien s'entendre avec ses parents pour pouvoir rentrer chez eux.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Ouais. Et moi, c'était le cas. J'étais dans une situation très complexe à l'étranger. Et la solution la plus saine pour moi, à ce moment-là, ça a été ça. Après, Ce qu'il faut savoir, et je pense que ça, dans ceux qui ont témoigné, ils pourront le reconnaître, sauf le monsieur de 32 ans peut-être. Mais au début, on a quand même un sentiment de goût d'échec quand on rentre. Mmh. Voilà. Et ça dépend de vous, mais ça peut vous suivre un petit peu, quoi. Et donc, l'exemple de je crois que c'est un psychanalyste de tout à l'heure qui est excellent, je trouve.
Sociologue.
Vraiment, vous vous promenez, vous sortez du boulot le soir, vous vous promenez, vous êtes avec des collègues ou peu importe, etc. Vous voyez une petite copine, n'importe. Et viens, on prend l'apéro à la maison. Sauf que, vous êtes chez maman. Et là, à ce moment-là, vous avez un goût d'échec. Entre guillemets, quoi.
Est-ce qu'on peut dire en tout cas que le retour chez vos parents, c'était aussi dans votre tête un laps de temps durant lequel vous alliez vous poser pour mieux rebondir après?
Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé par là, en disant que je m'entends bien avec. C'est-à-dire que vous rentrez, vous êtes dans une situation qui est confortable. Si vous entendez bien, vous êtes dans une situation qui est confortable et là, vous pouvez rebondir.
Oui.
Voilà, c'est du repos mental, physique.
On peut déposer les valises et commencer à réfléchir. Alors, ce qui est aussi important dans votre témoignage, c'est que vos parents sont âgés, hein, je crois, Christophe, et qu'il y a eu, durant l'année où vous êtes resté, des problèmes de santé qui sont intervenus, qui sont apparus, et vous vous êtes retrouvé finalement au bon moment, puisque vous avez aidé vos parents, vous avez été un support important pour eux.
Oui, c'est-à-dire que ça c'est le destin, on va dire, des problèmes de santé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si j'avais continué à vivre ma vie à l'étranger, loin, et donc loin des problèmes, et que je ne pouvais pas intervenir, ça m'aurait, je pense que je l'aurais regretté. Ouais. Alors que là, j'étais au cœur du problème. Mmh. Et du coup, avec ce que j'ai pu faire, en tout cas, j'étais là, quoi. Vous voyez, donc ça a été en concordance avec mon retour. Voilà.
En tout cas, en écoutant cette émission, on s'aperçoit que le retour chez les parents se fait, comme vous le soulignez, Christophe, lorsqu'on s'entend avec ses parents. Mille merci d'avoir participé à cette émission cet après-midi sur Europe 1. Christophe, merci aussi à Estelle, à André et à Delphine pour leur témoignage. Merci à vous, Michel Billier, sociologue et auteur de Liens conjugal et vieillissement aux éditions RS, pour vos conseils, pour vos éclairages. Retourner vivre chez ses parents, c'est rarement un choix. Alors, il faut essayer de rendre cette situation la plus vivable et la plus agréable possible. Il est important de poser les bases, on l'a vu, de cette cohabitation pour que chacun trouve ses marques, ses repères. Mais dans des périodes difficiles, le foyer familial est finalement souvent l'endroit où, on vient de l'entendre encore avec Christophe, on peut poser ses valises, où on peut trouver à nouveau ses repères et puis surtout où l'on trouve un soutien de la part de ses parents, encore une fois, si l'on s'entend bien avec, et un temps que l'on s'accorde pour pouvoir rebondir. On peut continuer, bien évidemment, à échanger sur les réseaux sociaux.
Oui, vous n'hésitez pas sur le groupe de l'émission. Il a été créé pour vous au début de la saison sur la page Facebook d'Europe 1, puisque, je le rappelle, chaque jour, l'émission se poursuit grâce à vous. Vous échangez, vous dialoguez entre vous. Donc, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Twitter également, hashtag Europe 1, et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel. Donc, vous avez le choix.
Europe 1.
Demain, nous parlerons de sport. Est-il indispensable à notre bien-être? Ce sera donc notre sujet. Si vous avez dû vous mettre au sport à cause de problèmes de santé, si le sport fait partie intégrante de votre vie, si vous n'arrivez pas du tout à vous y mettre, eh bien, appelez dès maintenant au 3921 pour venir nous parler de votre histoire. Nous serons là avec Ombline pour vous écouter. Oui. Ma chère, j'ai été ravie de passer cette heure avec vous.
Également,
ainsi
merci.
Qu'avec vous tous, chers amis. Merci de nous suivre chaque jour, de nous écouter. Merci pour votre soutien et puis de faire vivre cette émission.